France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un Thanksgiving sous Ozempic, le traitement contre l'obésité est un succès aux États-Unis, un succès pour lutter contre le très grand surpoids, mais aussi c'est une révolution en cours qui va jusqu'à bousculer la fête traditionnelle la plus importante du pays quand un traitement devient aussi un phénomène de société. Only in America, on y vient avec le premier invité ce soir. Pourquoi les anti-Mercosur sont-ils désormais minoritaires en Europe? Louise Baudet remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Corée du Sud, où ce ne sont pas les jeunes qui font trop de bruit quand ils font la fête, mais bien les vieux quand ils jouent aux échecs dans les parcs.
La mairie nous interdit de jouer à cause des gens qui boivent et qui se disputent. Mais à cause de quelques individus, on interdit à tout le monde de jouer. C'est n'importe quoi.
Un reportage à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Auda a trouvé la FIFA, la Fédération internationale de foot, qui pourrait offrir un prix de la paix à Donald Trump. Et puis dans la tech, la première, le retour de la vengeance de Google face à l'IA, expliqué par Stéphane Jourdain juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va.
En fait, tu choisis mieux ta nourriture, tu contrôles mieux tes quantités. Après quelques mois, ça devient une habitude, t'y penses même plus.
Et ça a changé ma vie, dit ce monsieur, l'extrait d'un reportage signé Isabelle Labéry. Bonsoir Fabrice Deloye.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous suivez depuis toujours les sciences et les technologies. Vous avez écrit « Ozempic, la révolution de l'obésité ». On a intitulé cette émission Fabrice Deloye, Thanksgiving sous Thanksgiving sous Ozempic. Je comprends pourquoi vous répondiez pas, vous avez cru que c'était pas vous. On a intitulé cette émission Thanksgiving sous Ozempic. On rejoindra Agathe Mamé tout à l'heure qui est à Atlanta. Mais en un mot et avant de détailler, la révolution de ce médicament, elle est médicale, on est d'accord, elle est également sociétale. Est-ce qu'on pouvait imaginer que les deux iraient de pair aussi vite et de manière aussi visible? Est-ce que même pour vous, c'est une vraie surprise?
Oui, ça a été une surprise pour tout le monde en réalité, puisqu'en fait ce médicament a été en réalité développé au départ pour le diabète, pour contrôler les niveaux d'insuline et essayer de donner aux gens qui ont perdu en fait le moyen de contrôler l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui nous permet de stocker en fait le sucre qu'on mange sous forme de graisse dans notre corps. On a fait ça et après on s'est rendu compte que ça avait aussi un effet sur l'appétit.
Est-ce que c'est même dans votre livre que je l'ai lu, vous parlez de changement de civilisation, ce qui est quand même assez fou. Est-ce qu'on parle vraiment de changement de civilisation avec ce traitement-là? Je ne suis pas sûr qu'on ait parlé, qu'on ait pu prononcer ce mot-là pour un autre.
Si vous m'amenez sur ce sujet de changement de civilisation, je vais être obligé de vous raconter une petite anecdote.
Ben, je vous en prie.
Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'étais dans une conférence à Washington où un chercheur qui avait le prix Nobel de chimie, qui s'appelle Richard Smalley, montrait pendant sa présentation, il montrait l'évolution de la population humaine. Il l'avait daté depuis 5000 avant Jésus-Christ, donc disons Moïse, quoi, pour faire simple, jusqu'à aujourd'hui. Et il montrait, en fait, que la population humaine, jusque vers 1650, restait stable. On tournait, que ce soit les meilleurs moments de l'Empire romain ou les pires moments du Moyen-Âge, on tournait toujours à peu près autour de 500 millions. Et d'un seul coup, on avait une rupture en 1650. Et on passait dans une exponentielle. Et en 300 ans, on passait de 500 millions qu'on avait duré pendant des milliers d'années à les 8 milliards et demi qu'on est aujourd'hui. Et il posait la question aux gens qui étaient là, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé en 1650? Les gens disaient, peut-être c'est la révolution industrielle. Ah ben non, c'est pas la révolution industrielle, c'est un siècle plus tard. En fait, c'était l'introduction de la culture de la pomme de terre qui permettait tout à coup, en Europe, qui permettait tout à coup de stocker des protéines pendant un temps très long, et qui a mis fin aux famines. Et c'est le début du moment où la population humaine... Et donc, la pomme de terre était une forme de changement de civilisation. Ouais. Et l'Ozempic, ou les médicaments qui y ressemblent aujourd'hui, qui nous permettent de contrôler notre poids d'une manière, si vous voulez, je peux rentrer aussi dans cette explication qui ressemble à ce que la nature fait, nous permet d'un seul coup de prendre le contrôle de notre poids. Exactement comme nous avons pris le contrôle de notre tension avec des médicaments qui nous permettent de contrôler notre tension, qu'il faut prendre toute notre vie, ou des statines qui nous permettent de contrôler notre niveau de cholestérol, d'un seul coup, on peut contrôler notre poids.
Est-ce qu'on peut dire, parce que cette manière de penser, on l'a souvent entendu, l'obésité, l'un des grands mâles du siècle, 40% de la population américaine notamment, et pas seulement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, grâce à cette molécule, on a trouvé la parade à l'obésité ?
À l'obésité, oui. On peut le dire. On peut le dire. Enfin, tous les chercheurs et tous les médecins avec qui, les médecins praticiens qui donnent, etc., trouvent. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le côté c'est juste parce qu'on a une molécule et ça y est, c'est un miracle. En fait, ce que cette molécule permet, c'est, il ne faut pas oublier que les gens qui sont obèses, ils ne veulent pas être obèses. Mmh. Ils ont essayé tous les régimes possibles de la Terre, la plupart du temps. Voilà. Et ça ne marche pas. Ils ont ce fameux effet yo-yo où il y a une chercheuse, je raconte dans le livre, qui a regardé 20 000 régimes scientifiquement établis. À 3 mois, tous les régimes marchent. Mmh. À 3 ans, aucun ne marche. Mmh. Voilà. Tout le monde revient à son poids, etc. Ce que ces médicaments permettent, c'est d'installer, et c'est ce que, en Suisse où je vis, les médecins font, ça va permettre d'installer un succès. Ça y est, vous avez enfin réussi à réduire votre poids, ça marche, ça dure. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux problèmes fondamentaux, psychologiques, de style de vie, de la manière dont vous nourrissez. Et on va pouvoir installer dans la durée quelque chose qui va éviter que vous redeveniez obèse.
Et c'est là que c'est intéressant sociétalement, si je puis dire, Fabrice Delay, parce que est-ce que ce travail-là, il se fait en même temps que ce médicament grandit ? Est-ce qu'on est déjà dépassé par un autre usage ? Déjà que c'est, vous nous l'avez bien expliqué, un usage détourné, puisque normalement ce médicament était fait pour le diabète. Est-ce qu'il n'est pas détourné de son détournement lorsque ce sont des gens qui ont finalement besoin de perdre quelques kilos seulement qui l'utilisent, ou qui ont décidé que c'était formidable parce qu'on n'avait plus besoin de faire d'efforts qui l'utilisent. Est-ce qu'on en est déjà, pour un médicament si jeune, au détournement du détournement ?
Oui, on est au détournement du détournement, vous avez absolument raison, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que ce médicament, et même les compagnies qui le fabriquent, essayent de dire, tant bien que mal, même si elles sont un peu hypocrites sur le sujet, l'OMS considère qu'il y a à peu près 1 milliard de gens qui sont obèses sur Terre, c'est déjà considérable. Mais si vous prenez les gens qui sont en surpoids ou qui se trouvent tout simplement trop gros, il y en a combien de milliards en plus ? Les deux, ça représente un marché. Donc, il y a un marché de 1 milliard d'obèses qui ont réellement besoin de ces médicaments, qui peuvent réellement les aider à lutter contre ce qui n'est rien d'autre qu'une maladie qui a des ressorts psychologiques, génétiques, enfin toutes sortes de ressorts, mais ça va les aider. Et puis il y a tout un tas de gens qui vont trouver que c'est juste confortable parce que
c'est tellement facile, mais
les fêtes de Noël sont passées, Thanksgiving est passé, je vais faire 3 mois d'Ozempic et puis comme ça au mois de mai quand j'irai à Saint-Tropez je serai plus mince que mon voisin ou etc.
Et ça existe déjà, c'est
l'être humain.
Et non seulement ça existe déjà, mais avant qu'on aille aux États-Unis, juste une petite dernière question. Ça veut dire qu'on n'a pas non plus réglé le problème de la malbouffe ? Ou est-ce que ça veut dire même que, désormais, ça ne nous intéresse plus de le régler, en fait, puisque de toute façon, on ne peut plus avaler certaines quantités. Donc on ne va pas chercher le problème de la malbouffe. Est-ce que le risque, ce n'est pas désormais de prendre les choses complètement à l'envers ?
Absolument. C'est ce qu'explique une des chercheuses de l'hôpital universitaire de Lausanne, que j'ai interviewé dans ce livre, qui est une praticienne, qui est quelqu'un qui prescrit ce médicament quotidiennement à des gens obèses. Elle dit, elle avait le problème que d'un seul coup, elle n'en avait pas assez pour ses patients, pour des vrais patients. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont un besoin que, on va dire, entre guillemets, de confort, quoi, l'achètent au noir, ou se le font prescrire par leur médecin qui a un copain, ou etc. Et donc, elle se retrouvait dans cette situation, elle n'avait pas assez pour ses patients. Et elle disait, est-ce qu'on va se retrouver demain dans une situation où vous prenez ce médicament et puis en même temps vous regardez la dernière publicité pour alors en Suisse on parle des chips Zweifel, c'est
oui,
très connu
vois,
en
Suisse, très bien.
C'est,
mais donc vous
c'est
pouvez...
ce qu'on mange, voilà, qu'on mange devant la télévision. Voilà. Donc on va avoir les deux mondes en même temps, c'est-à-dire vous avez d'un côté un monde qui est obésogène, comme le disent les chercheurs, c'est-à-dire qui vous pousse à manger tout le temps, et puis en même temps, vous contrôlez ça en prenant aujourd'hui une piqûre, demain un comprimé. Voilà.
Je voudrais qu'on y aille justement aux États-Unis, vous restez avec nous, évidemment, Fabrice Delay, bonsoir Agathe Mamet.
Bonsoir Fabienne.
Merci Agathe d'être avec nous, vous êtes à Atlanta, et ça ressemble à quoi alors Thanksgiving sous Ozempic ou équivalent? Les gens que vous allez nous présenter ne sont pas sous Ozempic, d'ailleurs ils sont sous GPL1, molécule équivalente. Au passage, c'est le médicament d'Oprah Winfrey qui en fait même la pub, ça dit jusqu'où c'est monté, alors ça ressemble à quoi?
Alors, moi j'ai discuté en effet avec Rich, il a 51 ans, il vit avec son mari à Atlanta, et tous deux suivent un traitement effectivement de GLP-1, lui parce qu'il a découvert l'an dernier qu'il était diabétique, et son mari simplement pour perdre du poids. Le médicament qu'il prend, Rich, précisément, c'est une alternative à Ozempic, ça s'appelle Mounjaro, et il en parle comme d'une pilule miracle.
J'ai commencé ce traitement et j'ai arrêté de penser à la nourriture. Vous voyez, toutes ces fois où je me disais, je crois que j'ai faim, alors que non. Les résultats étaient vraiment surprenants. En 2 mois, j'ai perdu 18 kilos.
Donc 2 en 1, hein, une importante perte de poids et le diabète qui s'améliore. Alors maintenant, comment se projeter vers le festin habituel qu'est Thanksgiving? Ça n'est pas simple, mais Rich explique qu'il ne va rien supprimer au menu traditionnel.
On va juste réduire les portions. Par exemple, plutôt que de faire toute une dinde rôtie, on a juste pris des filets de dinde. Ils sont en train de décongeler. Pas besoin de 6 desserts, on n'en fera que 2. Pas besoin d'avoir et une tarte aux cerises et une tarte à la citrouille. On ne fera que celle à la citrouille. En fait, on se réjouit d'avoir plus de vrai temps à passer ensemble et moins autour de la table. Parce qu'on sait tous comment ça se passe à Thanksgiving. On remplit les assiettes, on mange de bouchée et on se dit « Bof, ça va, je suis rassasié. »
Si ça vous rappelle Noël en France, c'est normal.
On a 7 des desserts quand il faut.
Comme c'est lui qui invite, Rich dit quand même qu'il ne veut surtout pas décevoir sa famille, qu'il soutient d'ailleurs dans ce traitement. Donc il prépare aussi des plats auxquels son mari et lui ne toucheront presque pas. Mais pour Rich, la clé, elle est là. Hein. Continuer à manger ce qu'on aime, mais en plus petites portions.
Merci beaucoup Agathe Mahuet de cette rencontre avec ces deux jeunes gens. Fabrice Delay, je voudrais lire un extrait de votre livre. C'est tout au début, vous dites: un cadre de l'industrie pharmaceutique à Dubaï me jure que tous ses amis en prennent et ont l'air de top modèles dans un quartier chic de l'Upper East Side à Manhattan. Les boutiques de vêtements voient les ventes de grande taille s'effondrer tandis que la demande en S ou en XXL est en train d'exploser. Donc on a effectivement sombré dans un autre usage de ce médicament, un usage de confort. On voit aussi arriver ce qu'on appelle les visages Ozempic. Est-ce que c'est dans le même temps, à votre avis, qu'est-ce que ça nous dit, qu'on voit revenir sur les réseaux sociaux, l'extrême maigreur, etc. Quelle est cette espèce de retour en arrière, et peut-être cet effet secondaire très inattendu que fait ce médicament?
C'est une question... Entre nous soit dit, 6 desserts, quoi. Vous imaginez, ils vont faire qu'un dessert au lieu de 6, quoi. Ça paraît dingue quand on y pense. Mais enfin bon, bref, tant mieux qu'on réduise un peu sur les desserts. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus large, si vous voulez. On est dans une société où la grossophobie existe, oui. Où les gens qui sont trop gros, ben, sont montrés du doigt, et dans certains cas, trouvent pas de travail, enfin il y a toutes sortes de discriminations qui sont terribles, hein. J'ai parlé avec beaucoup de médecins d'obésité, etc. Franchement, c'est quelque chose qui est terrible. Si ça peut aider ces gens, tant mieux. Maintenant, s'il s'agit juste de pouvoir rentrer dans sa robe de mariée 40 ans plus tard, etc., on peut se poser la question de savoir est-ce que véritablement c'est est-ce que c'est éthique, est-ce que surtout quand on fait ça parce qu'on a de l'argent, parce que ces médicaments coûtent cher, faut pas oublier,
ils ne sont pas remboursés.
On est alors Ils sont remboursés dans un certain nombre de pays. La France est en train de venir au remboursement. Oui. Mais
dans des cas très précis, absolument.
Et dans pour
des
cas l'obésité, qui sont pas pour le confort.
Et chez nous, très encadré, Fabrice Delay, je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous. Je rappelle que votre livre s'appelle Ozempic, la révolution de l'obésité, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci mille fois. La suite d'Un jour dans le monde, c'est le monde à l'endroit. Et c'est vous, Louise Baudet.
Les Français unanimes contre l'accord Mercosur, mais ils comptent leur soutien au niveau européen.
Allez, juste après ça. I'm falling in love. Ils sont british et dans la playlist d'Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet. You don't have the
cars. Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Louise, où l'on reparle ce soir de l'accord Mercosur qui fait l'unanimité contre lui en France, et vous nous expliquez pourquoi c'est beaucoup plus compliqué au niveau européen.
Eh oui, belle et rare unanimité à l'Assemblée nationale ce matin, mais belle et habituelle cacophonie autour de la table des 27. Cet accord a été signé il y a un an, après des décennies de négociations. Il prévoit de réduire les droits de douane pour exporter plus de voitures, plus de machines, plus de vins européens vers l'Amérique du Sud, en contrepartie partie d'une plus grande ouverture aux produits agricoles sud-américains. Et l'horloge tourne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, espère bien s'envoler le 20 décembre pour le Brésil et le prochain sommet du Mercosur, avec en poche le traité dûment approuvé.
Et donc autour de la table des Européens, qui est pour et qui est contre, hein ?
Alors, premier soutien du texte, l'Allemagne et l'Espagne, convaincus que face aux droits de douane américains et au déferlement des produits chinois, il est impératif de nouer des accords alternatifs pour sécuriser les marchés des entreprises européennes et leur approvisionnement en minerais stratégiques. Longtemps réticente, l'Italie semble avoir rejoint ce camp du oui. En face, les pays qui craignent une concurrence mortifère pour leur agriculture et pour les normes sanitaires, au premier rang desquels la France. La France qui se retrouve isolée, elle peut, c'est vrai, compter sur l'opposition de la Pologne, de l'Irlande, de l'Autriche et de la Hongrie, mais cela risque d'être trop juste pour constituer une minorité de blocage.
Et Bruxelles, Louise, a donné des gages aux pays réticents, ça suffit pas ?
Effectivement, des clauses de sauvegarde, comme on les appelle, ont été adoptées la semaine dernière. Elles prévoient de freiner les importations en cas de perturbation du marché européen pour des produits sensibles comme le bœuf, la volaille, le miel ou le sucre. Mais ces protections sont complètement insuffisantes pour les opposants à l'accord, notamment les agriculteurs français. Et Paris réclame en plus des mesures miroirs pour interdire en Amérique du Sud ce qui est interdit en France, antibiotiques ou pesticides. Une concurrence plus loyale donc et des contrôles sanitaires renforcés. Alors Emmanuel Macron a montré quelques hésitations plutôt positives au Brésil au début du mois. Il a ensuite rétropédalé devant la fronde des agriculteurs et l'unanimité de la classe politique française. Faute d'être sûr de l'emporter à la table des 27, l'idée est en fait d'obtenir un maximum de concessions avant d'avoir à se prononcer.
Les anti-Mercosur sont donc minoritaires parmi les États membres, Louise, mais le Parlement européen a aussi son mot à dire.
Oui, les eurodéputés vont voter et il n'est pas certain que ça passe, car les anti sont très motivés. 145 élus venant de différents partis politiques et représentant 21 nationalités ont essayé de bloquer l'accord en saisissant la justice européenne. Manœuvre contrecarrée la semaine dernière par la présidente du Parlement européen qui est favorable au texte. Mais les 145 promettent de retenter le coup en justice et plus tard dans l'hémicycle où ils espèrent être rejoints de la gauche à la droite radicale, mais aussi sur les bancs des conservateurs du PPE où beaucoup d'élus français et polonais sont travaillés par leur électorat. Impossible pour l'heure de prédire l'issue du vote, mais une chose est sûre, ce vote-là sera contraignant, contrairement au scrutin organisé ce matin à l'Assemblée nationale française.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage qui est en Corée du Sud ce soir, vous l'avez, l'image de ces seniors qui jouent aux échecs dans les parcs, eh ben, allez jouer ailleurs. Trop bruyants, trop nombreux, les retraités jouant aux échecs dans les parcs sont priés par la mairie d'aller voir ailleurs. Les seniors l'ont très mal pris, ils se sentent marginalisés dans un pays pourtant de plus en plus vieillissant. Et le reste, c'est Celio Fioretti qui raconte.
C'était une carte postale des vieux parcs du centre-ville de Séoul. À l'ombre des érables, des dizaines de retraités réunis autour des tables de Jangi ou de Badouk, sorte de jeu d'échecs chinois. On rit, on se dispute au cours de parties interminables et endiablées. À chaque table, deux joueurs et près d'une dizaine d'observateurs qui viennent commenter chaque coup, chaque pion déplacé sur l'échiquier. Seulement, cette image d'Épinal fait désormais partie du passé, avec l'interdiction des jeux au parc de Tapgol à Séoul. Une décision qui énerve Yon Bongo, 70 ans, qui venait jouer tous les jours et passe désormais son temps assis sur un banc.
Moi, j'aimais bien jouer au parc. On est dehors, c'est gratuit. On voit les saisons passer, les feuilles jaunir à l'automne. La mairie nous interdit de jouer à cause des gens qui boivent et qui se disputent. Mais à cause de quelques individus, on interdit à tout le monde de jouer. C'est n'importe quoi.
Monsieur Kim, lui, ne joue pas vraiment. Il est vrai que le badouk est assez difficile à prendre en main, mais il venait observer les parties de ses collègues. Pour cet homme qui approche des 80 ans, la fin des jeux au parc va isoler les personnes âgées.
Vous savez, les personnes âgées n'ont personne à qui parler. On n'a nulle part où aller, pas d'endroit où profiter seul. Alors il faut bien qu'on ait ici un lieu où discuter et jouer ensemble. Il y a un vieux proverbe coréen, si on joue régulièrement au jangi, on ne devient pas sénile. Parce que quand on joue au jangi, il faut réfléchir, n'est-ce pas? Gagner ou perdre, c'est secondaire.
Et est-ce que cette interdiction de jouer, c'est une forme d'agisme, de discrimination envers les personnes âgées, selon vous?
En quelque sorte. Notre pays a un des meilleurs systèmes d'assurance maladie au monde. C'est pour ça que les vieux ne meurent plus, ils vivent longtemps. Mais voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'endroits pour s'amuser. Parce que ceux qui dirigent manquent de vision. Ils croient qu'ils vivront éternellement comme ils sont maintenant. Mais dans quelques années, ils seront vieux comme nous.
La mairie de Séoul a demandé aux seniors d'aller jouer en intérieur dans les foyers pour personnes âgées où il faut s'inscrire avant de venir. Une mesure qui a été suivie par certains joueurs comme Jang Jin-sik, 77 ans, que l'on retrouve en fin de partie dans l'une de ces salles de jeu toutes propres, bien loin des feuilles mortes de l'automne qui recouvrent les tables extérieures du parc.
Je suis assez satisfait pour ma part. Moi, j'y viens presque tous les jours. Ici, c'est plus spacieux, plus confortable, et il y a la climatisation. Dans la rue, c'est différent. Les gens jouent, boivent, se disputent à cause des paris. Finalement, c'est pas si mal. Ici, on est contrôlé, il n'y a pas de dérive. Moi, je pense que ceux qui préfèrent jouer dehors sans règles, c'est qu'ils ne veulent pas s'adapter.
S'adapter face au changement, c'est ce que devront faire bon gré mal gré les retraités du parc de Tapgol à Séoul. Ce petit espace vert dans l'immense métropole était devenu depuis des années un espace ouvert à tous, notamment les plus précaires et marginaux. Un petit bazar bruyant mais convivial que la mairie de Séoul ne souhaite plus voir dans les rues.
C'est Lio Fioretti pour le reportage, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est ce que Guillaume Auda a déniché sous les radars.
Sous les radars au Parlement européen où la présidente vise un troisième mandat et c'est l'extrême droite qui pourrait lui faire la courte échelle.
Allez, la tech la première comme chaque jeudi, c'est vous Stéphane Jourdain.
On parle du grand comeback de Google 3 ans après l'arrivée de ChatGPT.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par l'Islande avec qui ? Voilà, c'est moi qui lui ai dit. It's oh so still. So Quiet et Björk, bien sûr. C'est Djoubaka qui signe la programmation musicale de l'émission et Guillaume Auda qui fouille sous les radars.
Also der Operationsplan Deutschland ist zum einen ein Plan, den
Guillaume, l'homme qu'on entend, est un général de corps d'armée. Il est allemand, il a un message à faire passer aux Russes. Ne cherchez pas à nous attaquer, nous sommes prêts.
Et jeudi, ce jeudi, le Wall Street Journal va plus loin que ce monsieur et publie un document classifié, 1200 pages, élaboré par l'armée allemande et sans doute par ce général qu'on a entendu autour d'un plan militaire très structuré en cas de choc majeur avec la Russie d'ici à 2029. L'Allemagne est fin prête à transformer son territoire en un corridor stratégique jusqu'au flanc est de l'Europe, prête à déplacer jusqu'à 800 000 hommes. C'est le chiffre avancé. Troupes allemandes, troupes OTAN, troupes alliées, le matériel qui va avec à travers les routes, les voies ferrées, les ports et les aéroports. Tout est détaillé. Et là, vous avez l'une des dimensions de la dissuasion, les fuites, l'aspect psychologique, faire passer des messages que votre adversaire reçoit 5 sur 5.
Europe must get serious about its own defense. We need two things. We need the will.
Et du côté de l'Europe aussi, on se soucie très officiellement de défense, dixit Roberta Metsola, c'est la présidente du Parlement européen.
Présidente maltaise de ce Parlement, membre du PPE, la droite pro-européenne, première force de cet hémicycle. Et donc en effet, Roberta Metsola nous dit que pour muscler la défense du continent, il faudra de la volonté et de gros financements. On a suivi ça très près mardi avec Caroline Gillet. Tout cela a été voté en séance plénière avec plein d'autres sujets. Le rideau y tombe ce jeudi. Et ce qui va désormais animer les conversations, c'est ce troisième mandat au perchoir que vise l'actuelle présidente. Elle est fragilisée sur sa gauche. L'extrême droite européenne a senti le vent tourner. Les Patriotes, fondés par Viktor Orban, présidés par Jordan Bardella, lui proposent un marché à Roberta Metsola. Alors 85 voix pour un troisième mandat, si on les laisse entrer au cœur du pouvoir. En clair, deux vice-présidents, c'est un poste de questeur. Le hic, et c'est là qu'on raccroche tout ça à la première histoire, c'est que la plupart des partis d'extrême droite qui forment les Patriotes au Parlement européen affichent des positions pro-Kremlin.
Maybe you or... Well, on the 5th of December, you will see.
We'll find out. Okay.
C'est vrai que ça a l'air de bien rigoler à la FIFA. Guillaume, qui se mêle de géopolitique. Et il y en a un qui son président fait de gros appels de phare, c'est Donald Trump.
Voilà, la semaine prochaine, tout ce que compte notre planète de fans de foot aura les yeux tournés vers Washington, où a lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde. Vous savez qu'elle est organisée l'été prochain par le Mexique, le Canada et les États-Unis. Peu importe le vainqueur, si j'ose dire, celui qui soulèvera le trophée, je vous le donne en mille, c'est le président américain. Mais pour être sûr que le locataire de la Maison Blanche soit aux anges, la FIFA et son président ont sorti les trompettes et de leur chapeau le mois dernier un prix FIFA de la paix, parce que le football exalte l'harmonie entre les nations. Rangez-moi ce Nobel qui ne sert à rien, que Trump n'a pas décroché. Le prix FIFA de la paix sera remis dans une semaine. Ce jeudi, les bruits de couloir sont plus qu'insistants. Et si c'était Trump, le lauréat, gros suspense pour cette récompense qui est aussi entre outils d'influence, c'est clair. C'est le chemin qu'emprunte la FIFA et gadget diplomatique.
Comme vous dites, Guillaume Audat, merci beaucoup. Le jeudi, Stéphane Jourdain et la chronique sur l'IA garantie sans IA. C'est la Tech la première.
France Inter. Le 18/20.
Stéphane, nous fêtons cette semaine les 3 ans de ChatGPT. Joyeux anniversaire ChatGPT. Et pour l'occasion, vous nous parlez de la revanche de Google, qu'on a peut-être enterré un peu trop vite.
Eh oui, souvenez-vous, 30 novembre 2022, une barre de recherche ultra austère devient la page web la plus hype du monde, ChatGPT. Nouveau joujou pour écrire des recettes de crêpes à la manière de Tolkien ou le discours de départ à la retraite d'une collègue qu'on n'aime pas trop. Le monde entier s'initie à l'IA générative, perroquet probabiliste omniscient, à l'incroyable capacité de synthèse et à France Inter. La première fois qu'on en parle, c'est grâce à Pierre Aski.
Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous nous parlez d'un développement technologique spectaculaire.
Alors tout d'abord, je dois vous assurer que c'est bien moi qui ai rédigé cette chronique. Vous allez comprendre pourquoi j'apporte cette précision essentielle. Depuis une semaine, la planète tech est en ébullition autour d'un logiciel d'intelligence artificielle qui répond au doux nom de ChatGPT-3.
ChatGPT-3 séduit 1 million d'utilisateurs en une semaine, 100 millions en 2 mois, et Google prend un coup de vieux. Écoutez comment ce podcast américain en parle à l'époque.
Vous vous souvenez quand faire une recherche Google avait quelque chose de magique? Cette révolution est complètement derrière nous. Pour nous maintenant, Google, c'est un peu Papyland.
Papyland, n'en jetez plus.
Bam. Alors justement, côté Google, comment on encaisse?
La direction enclenche le code rouge, selon plusieurs médias américains. Prière d'accélérer pour contrer ChatGPT, menace existentielle pour le groupe. Le résultat de ce coup de pression tombe le 8 février 2023 à Paris, quand Google présente en grande pompe les prouesses de son chatbot IA, Bard.
Et ça, c'est un énorme plantage.
En mondiovision, à cause d'une réponse bien précise à une question anodine sur le télescope James Webb, Bard répond qu'il a pris la première photo d'une planète en dehors du système solaire, ce qui est faux. Dans les heures qui suivent, le monde entier se moque de Google.
Quelle gaffe incroyable, c'est un événement embarrassant.
C'est faux, inexact. L'énorme bourde de Bard va coûter plus de 100 milliards de dollars à Google. Si Bard se plante lors d'une présentation officielle à Paris, qu'est-ce que ça va être en situation réelle?
Je crois que c'est la pire démo de l'année, voire peut-être de la décennie, voire de tous les temps.
Pire démo de tous les temps. Google, vous l'avez compris, perd 100 milliards de valorisation en bourse et le patron de Microsoft, associé d'OpenAI, s'en cache à peine. Il commence à creuser la tombe de Google.
J'ai la plus grande admiration pour tout ce qu'a fait Google. Mais avec nos innovations, on a réussi à remettre un peu de concurrence dans le secteur. Et croyez-moi, ça fait 20 ans que j'attendais ça. Et j'espère qu'on va les obliger à sortir du bois, à nous montrer ce qu'ils ont dans le bide. Si ça arrive, ce sera un grand jour.
Alors, qu'est-ce que Google a dans le bide ?
3 ans plus tard, on a la réponse. Cette semaine, Google a sorti la dernière version de son IA la plus avancée, Gemini 3, et l'accueil est très différent.
Ce que Google a sorti de son chapeau avec Gemini 3, c'est du très très lourd. C'est un bond de géant. Gemini 3 est le modèle d'IA le plus avancé selon tous les critères. C'est absolument incroyable.
En IA, les choses bougent très vite. Regardez Google, passé de largué à adulé en quelques mois. Maintenant, ils sont en tête grâce à leur nouveau modèle Gemini 3 qui a fait mouche.
Gemini 3 est sorti, ça a bluffé tout le monde, c'est quand même assez impressionnant. Et alors ce qui est intéressant, c'est la remarque de Sam Altman. Sam Altman est un petit peu en panique parce qu'il se rend compte que Google est en train de rattraper son retard.
Ah. Gemini 3 est en tête de quasiment tous les comparateurs de performance des IA et le monde entier s'amuse avec son générateur d'images Nano Banana.
Donc Stéphane, ça y est, Google tient sa revanche ?
On a demandé à un économiste de trancher cette question, Quentin Demey, professeur à l'ESSEC, spécialiste du numérique.
En 2022, fin 2022, quand il y a OpenAI et qu'on se rend compte de tout l'impact que ça a sur la manière de rechercher, la manière dont les gens ont d'aller chercher de l'information, il y a eu ce moment-là de se dire est-ce que Google va réussir à prendre sa part ? Aujourd'hui, avec Gemini 3, je pense qu'on a un bout de la réponse. Google a réussi à jouer des coups et à garder sa place. Mais c'était une vraie question il y a quelques années.
En 6 mois, le cours de l'action Google a augmenté de 85%.
Alors donc, comment on l'explique ce succès ?
D'abord, Google s'est mis à l'IA très très tôt. Écoutez son PDG iconique, Larry Page, en 2000.
Artificial intelligence would be the ultimate version of Google. So it would understand everything on the web.
L'IA, ce sera la version ultime de Google, dit-il. Dès l'année d'après, 2001, l'IA rentre d'ailleurs dans le moteur de recherche de Google avec sa fonction « Did you mean ?». Si vous tapez « Fabien synthèse », il corrige de lui-même « Fabienne ». Et ça, Fabienne, c'est de l'IA.
C'est parce qu'il a peur, oui. Et puis, il y a ce choix stratégique qui a porté ses fruits.
Qui tient en 2 mots que le PDG Sundar Pichai répète à longueur d'interview.
We have a full stack approach, so we call it a full stack approach.
I decided to take a full stack approach to AI.
Full stack, ça veut dire que des puces au navigateur web, en passant par le cloud, Google maîtrise toute l'infrastructure, comme nous l'explique Thibaut Prévost, auteur du livre « Les prophètes de l'IA ».
La particularité de Google, c'est que c'est à l'heure actuelle le seul qui parvient à un tel niveau de compétence avec des puces et des logiciels qu'il contrôle et qu'il développe. Contrairement au reste de l'industrie qui utilise des cartes graphiques fournies par Nvidia, Google développe ses propres puces depuis 2016 et les compétences qu'on voit aujourd'hui sur Gemini 3 sont le fruit de ces 10 ans de développement de puces et de logiciels.
Gemini 3 est la première IA de Google développée sans aucune puce Nvidia autonomie.
Et donc la suite, c'est quoi ?
Jouons un peu à Madame Irma avec Thibaut Prévost.
Google a une très grande expérience de pratiques anticoncurrentielles quand il s'agit de conserver son monopole. Et je pense que c'est même peut-être ce qui fait un petit peu peur aujourd'hui à certains acteurs de l'industrie de l'IA. C'est que si Google remplace Nvidia comme monopole de fabrication des puces et des systèmes logiciels, bah on sait où ça mène, c'est une consolidation qui ne supporte plus aucune concurrence, quoi.
On s'inquiète d'une situation de monopole de Google. Google a bien pris sa revanche.
Merci beaucoup Stéphane Jourdan, à la semaine prochaine.